Et bonjour tout le monde. Alors, on vérifie qu'on entend bien. Pourquoi ça n'a pas l'air de sortir? Allô, allô. Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ah, on recommence. Bonjour, bonjour. On est bien sur Radio Klaxon. On est le lundi 24 octobre. Et nous avons deux invités sur le plateau, les mêmes que la semaine précédente, pour nous parler. De quoi allez-vous donc nous parler aujourd'hui?
Alors, d'écologie politique, peut-être pour revenir sur la première émission, c'était d'aborder la question de la dépolitisation de la question climatique, et la première émission portait sur l'acteur qui est l'État. Et on a essayé de discuter, de parler du fait que l'État contribue à cette dépolitisation en rendant responsables les individus des problématiques climatiques, et ce qui l'évite d'avoir à se poser des questions, à se remettre en question, et ce qui le mène à ne pas lutter réellement contre les causes de ces dérèglements climatiques. Donc c'était l'idée d'aboutir au fait que les mesures étatiques se focalisent en fait sur les comportements et passent sous silence ce qui a engendré ces comportements, ce qui participe à dépolitiser ces enjeux climatiques tout en s'évitant une discussion qui remettrait en cause autant la société industrielle que le capitalisme en tant que tel. Donc on a vu que l'État parlait d'éco-citoyenneté. C'est un peu le terme qui regroupe toute cette idée de responsabiliser, d'individualiser ces problématiques. Et dans ce deuxième épisode, on souhaite aborder la question des médias et de voir en quoi les médias font de la question climatique une problématique d'ordre naturel et non pas une problématique sociale. Donc on est de nouveau avec Jean-Baptiste Combi qui va nous parler des médias et de leur manière de traiter l'information par rapport à la problématique climatique.
Tout à fait. Donc, effectivement, vendredi, on a regardé comment l'État avait, au début des années 2000, insufflé et développé cette morale éco-citoyenne voilà, qu'on retrouve un peu partout, qui a contaminé le discours sur l'environnement, qui est une morale parfaitement conforme au néolibéralisme dans ce qu'il a de plus nocif et nauséabond, une morale qui est aussi faite par et pour les classes bourgeoises, les classes dominantes, puisque cette morale éco-citoyenne, sous couvert d'être universel, en fait, permet d'entretenir la valeur, la symbolique, c'est-à-dire la légitimité des modes de vie bourgeois qui sont pourtant les plus pollueurs. Donc, on a vu ça. Et là, effectivement, on va regarder cette fois comment les médias, les journalistes ont pleinement participé à ce travail politique.
Dans ton livre, tu parles d'un accès à la dignité médiatique du thème climatique. Donc, du fait que l'espace médiatique alloue plus d'importance, cette place à la question climatique, pourquoi et avec quel impact sur l'information?
Oui, c'est-à-dire que l'État donc va instrumentaliser, va mobiliser les journalistes, les médias pour faire du, enfin, en fait, l'idée de faire du climat une question très valorisable par les journalistes, très valorisable dans les médias, c'est en soi une politique publique. Je pense que ça, c'est un premier point de départ pour comprendre que les journalistes s'inscrivent dans quelque chose qui est au départ politique, qui est les journalistes vont en fait vraiment servir la soupe à l'État, mais malgré eux. Et en fait, ce qu'on va essayer de comprendre là, c'est comment cela s'est produit au début des années 2000 et pourquoi ça s'est produit de cette façon-là. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps de revenir un petit peu sur l'histoire du journalisme environnemental, comment à la fin des années 90, il y a eu des changements dans la façon dont les journalistes ont traité l'environnement, ce qui permet ensuite de comprendre pourquoi le climat est devenu un sujet médiatique mainstream et comment ça a été traité de façon dépolitisante, c'est-à-dire de façon parfaitement consensuelle, en fait, de façon parfaitement factuelle. On a fait du climat un fait divers. Voilà. Et comment on en est arrivé là, en ayant bien en tête hein, que faire du climat un fait divers, c'est la meilleure façon de valoriser médiatiquement le climat.
Dont tu parles de la contribution en fait du champ médiatique à ce que tu qualifies de doxa sensibilisatrice. et de leur la prétention à l'objectivisme du champ journalistique, en fait, des journalistes eux-mêmes.
Ça, on va y venir, là. Ça sera dans la deuxième partie. D'accord. Et du coup, peut-être pour... ça, je crois que c'est très important de comprendre ça par la suite. Mais peut-être pour comprendre ça, il faut revenir un peu sur comment les choses se sont passées, en gros, les relations médias-environnement. En fait, tout commence essentiellement dans les années 70 avec des magazines et des journalistes qui vont s'occuper de l'environnement de façon, pour le coup, assez critique, assez politique. Et parler d'environnement, bah, c'est un peu remettre en cause quand même le système, quoi. Il y a cette idée-là, alors de façon plus ou moins radicale, mais quand même, il y a vraiment cette idée-là. À ce moment-là, dans les années 70, 80, jusqu'au même dans les années 90, les journalistes qui vont traiter d'environnement, ils le font par conviction, ils le font parce que pour eux, l'environnement, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il se passe des choses, c'est une façon d'interroger frontalement et fondamentalement la société. Donc, ils le font vraiment par conviction. C'est très important. Donc, on a des journalistes, il y en a encore qu'on connaît, hein, des journalistes comme Hervé Kempf, il y avait Ruth Tegassi, par exemple, Les Pieds sur Terre, France Culture, il y avait toute une génération de journalistes dont les sources principales, c'était les associations, dont les références, c'était l'écologie politique, c'était Illich, c'était André Gore, c'était des gens comme ça.
On parlait d'écologie politique.
Et tu parlais d'écologie politique. Enfin, là, on était dans un traitement politique, dans un traitement journalistique de l'écologie qui était politique. Où, voilà, c'était vraiment, on soutenait les luttes, on en rendait compte. Voilà, il y avait cette conception-là de l'environnement. Et ça, c'est des années 70, juste au milieu des années 90, où c'est ce qui est dominant. Et au cours des années 90, les choses évoluent. Plusieurs éléments. La première, c'est que, en fait... Bon, l'environnement devient quand même un sujet, à la fin des années 90, qui intéresse un peu plus largement les rédactions. Aussi parce que de nouveaux journalistes vont s'intéresser à cette question-là. Des journalistes qui vont s'y intéresser, non pas tant parce qu'ils trouvent que c'est fondamental comme problématique, que ça soulève des enjeux forts, mais parce qu'on leur propose de traiter d'environnement. Parce que se créent de nouvelles rubriques ou de nouveaux services dans les rédactions, des services environnement, des rubriques planète ou des rubriques de terre dans les rédactions généralistes. Du coup, finalement, les journalistes, les spécialistes historiques, les journalistes qui avaient un rapport politique à l'environnement ont plutôt bien fait leur boulot et ils ont réussi à imposer cette problématique à la fin des années 90 dans le champ journalistique aussi parce que il y a d'autres choses, hein, l'État s'en empare comme on l'a vu vendredi, etc. Mais voilà. Et donc du coup, il y a ce qu'on appelle une institutionnalisation, c'est-à-dire que ça devient des rubriques à part entière, ça devient des services à part entière, ça devient une spécialité à part entière que de traiter d'environnement. Du coup, il y a de plus en plus de sujets qui parlent d'écologie, de biodiversité, de climat, etc. Et du coup, il y a besoin de nouveaux journalistes. Les spécialistes historiques, journalistes politiques de l'environnement ne peuvent pas tout faire. Du coup, de nouveaux journalistes arrivent sur cette spécialité. Sauf que eux, comme je le disais à l'instant, ils n'y arrivent pas par conviction. Ils y arrivent parce que l'occasion fait le larron. Et ils y arrivent après avoir fait l'éducation, la santé, l'économie, l'immobilier. Mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils croient que c'est fondamental. Donc, du coup, ils y arrivent avec un rapport plus détaché sur cette question-là. Et du coup, eux, ils vont... En fait, ce que j'ai observé, en regardant de près un peu qui étaient ces différents journalistes, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment le même profil. Ils n'avaient pas non plus la même formation. Les journalistes qui arrivent sur le tard, à la fin des années 90, début des années 2000, dans cette nouvelle spécialité que l'environnement, eh bien, ils sont davantage passés par des écoles professionnelles, par des écoles de journalisme. Ils sont davantage issus de milieux bourgeois. Ils ont davantage intégré les critères dominants de ce que c'est le bon reportage, de ce que c'est le bon article sur l'environnement. Et du coup, ils vont être beaucoup plus méfiants à l'égard, par exemple, des sources associatives, des sources radicales. Ils ne vont pas avoir les mêmes références. Et ils vont avoir un rapport, finalement, beaucoup plus lisse, beaucoup plus neutre, avec des guillemets, hein, on reviendra à cette idée de neutralité. Ils vont avoir un rapport beaucoup plus lisse, beaucoup plus gentillet, finalement, beaucoup plus à l'environnement. Et ils vont davantage, par exemple, écouter ce que dit l'État, ce que disent les experts d'État, plutôt que ce que disent les militants de l'environnement.
On parle donc d'une mutation des profils des journalistes, et tu parles aussi des contraintes qui pèsent en fait sur les médias au niveau des exigences d'audience et commerciales qui contraignent aussi autant les profils des professionnels et le traitement de l'information.
Oui, effectivement, ça c'est quelque chose de fondamental. Hein. S'il y a bien eu une révolution dans les médias, c'est une révolution conservatrice qui s'est opérée au milieu des années 80 avec l'entrée dans les avec le fait que les médias deviennent plus que par le passé des entreprises de presse, des entreprises médiatiques. Donc, des entreprises qui sont soumises à des logiques de rentabilité et qui doivent effectivement faire du chiffre. Et pour les médias, faire du chiffre, ça veut dire faire de l'audience. Hein. Et cette contrainte qui va s'imposer de plus en plus fortement et qui va devenir tout à fait naturelle, banale chez les journalistes, a aussi des effets sur le contenu produit. C'est-à-dire que tout ce qui clive un petit peu, tout ce qui est un peu conflictuel, ça va être moins bienvenu dans les rédactions parce qu'on risque de perdre une partie de l'audimat, une partie des spectateurs, téléspectateurs, lecteurs. Et donc, on va privilégier les sujets perçus comme consensuels, comme ce qu'on appelle des sujets omnibus. Alors, les omnibus, c'était des bus qui s'arrêtaient à tous les arrêts pour prendre tout le monde. Bon, ben là, c'est des sujets qui embarquent tout le monde parce qu'ils ne chahutent absolument pas les structures mentales. Ils ne chahutent pas, ils nous font pas de mal, quoi. On pourrait dire qu'ils nous endorment, c'est plus compliqué que ça. Mais il y a un côté... tous les sujets, justement, un peu clivants. Et l'écologie était une thématique particulièrement clivante dans les années 80-90. Et les journalistes qui traitaient d'environnement, enfin, les spécialistes historiques, hein, ils n'étaient pas là pour faire du chiffre. Eh bien, du coup, on voit que leur rapport à l'environnement et leur rapport à la façon de traiter l'environnement un peu clivante, un peu politique, eh bien, elle va être de moins en moins compatible avec cette nouvelle logique médiatique qui, en fait, se traduisent par de nouvelles attentes, par de nouvelles consignes de la part des rédacteurs en chef.
Donc on assiste au poids des intérêts économiques sur le traitement de l'information qui redéfinissent en fait les critères de ce qu'est une bonne information.
Ouais. C'est-à-dire que là où souvent on pense le poids des logiques économiques comme étant de la censure ou le poids des grands groupes économiques qui vont censurer le travail des journalistes, en fait c'est je crois plus vicieux, plus sournois que ça, puisqu'en fait c'est que les logiques économiques, sans qu'il y ait besoin de censure de la part des grands groupes ou de collusion entre tel grand journaliste ou journaliste, grand journaliste, ça ne veut pas dire qu'il est grand et qu'il est bon, ça veut dire qu'il est réputé. Donc, entre tel journaliste réputé et tel homme d'affaires, bon, souvent voilà, on met en avant dans la critique des médias, et c'est important de le faire, le fait qu'il y a des journalistes qui se marient avec des hommes politiques ou que voilà, c'est un petit entre-soi. Bon, il y a ça. Mais je crois que ce n'est pas là, que c'est le plus efficace. Les collusions les plus efficaces entre les logiques économiques et les logiques médiatiques, c'est justement, comme tu le disais, c'est que ça en fait, se traduit par des critères professionnels, par des logiques professionnelles de qu'est-ce qu'un bon reportage, qu'est-ce qu'un bon article, qu'est-ce qu'une bonne source d'information, qu'est-ce qu'un bon client. Et du coup, à partir du moment où ça avance sous le visage de critères professionnels, on dit souvent hein, la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Bon, bah là, le diable, il avance masqué effectivement, et on a l'impression qu'il n'existe pas parce que, en fait, je fais pas ça parce que je suis censuré par les grands groupes économiques. Ça, c'est n'importe quoi. Hein, on va vous dire qu'on fait ça parce que c'est ça qui parle aux gens. C'est ça que les gens attendent. Sauf qu'en fait, derrière, c'est simplement les logiques économiques. Voilà un peu le masque des logiques économiques. Et du coup, effectivement, les nouveaux journalistes qui arrivent sur la spécialité environnement dans la fin des années 90, début des années 2000, eux, ils ont parfaitement intériorisé cette conception du bon reportage, consensuel, factuel. Dans la deuxième partie, tout à l'heure, on va venir voir comment concrètement ça se traduit hein, dans la façon dont le climat a été traité médiatiquement. Mais juste pour peut-être finir là-dessus, sur cette première partie... dire que voilà, ces nouveaux journalistes, ils ont parfaitement intériorisé ces critères lisses, neutres, consensuels du bon reportage. On va voir comment ça se traduit, encore une fois. Mais ils ont aussi, du coup, fait tout un travail au sein des rédactions pour mettre à distance ce qu'ils ont perçu comme le stigmate militant du journaliste environnement. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée dans les rédactions que les journalistes environnement, c'était des journalistes militants. Et que l'environnement devait devenir une spécialité journalistique comme les autres, donc professionnalisée, donc qui ne devait plus être militant. Bah, du coup, les un peu les vieux journalistes, hein, je fais exprès d'employer l'adjectif vieux, parce qu'ils étaient perçus comme ça, ceux qui faisaient des remarques dans les rédactions pour essayer de moins gaspiller de papier, pour ces journalistes qui arrivaient en vélo dans les rédactions, même s'il pleuvait, bon, voilà, et qui, du coup, s'attiraient un peu les sarcasmes de leurs collègues. Bon, ils ont essayé de mettre, du coup, de se faire passer pour non plus des journalistes militants, mais des journalistes professionnels. Et en fait, c'est assez vicieux, parce que tout journaliste est militant. Je crois que les journalistes les plus militants, ce sont les journalistes qui s'occupent d'économie. Ces journalistes qui s'occupent de microéconomie, de la vie des entreprises. Eux, c'est des militants du néolibéralisme. Mais comme ils militent pour l'idéologie dominante, ils n'apparaissent pas comme des militants. Hein, on dit souvent que seuls les poissons morts vont dans le sens du courant. Et effectivement, quand on est un poisson vivant, un poisson militant, on va à contre-courant et on fait des vagues. Du coup, on est perçu comme journaliste militant. Mais en fait, ceux qui vont aussi... voilà, tous les éditocrates sont aussi des journalistes militants dans le sens où ils défendent une idéologie, ils défendent une cause, celle du néolibéralisme, de la micro-économie et de l'entreprise. Alors effectivement, du coup, les journalistes environnement, en voulant se défaire de ce stigmate, de ces critiques un peu comme quoi ils étaient militants, eh bien, petit à petit, ils ont fini par endosser les logiques dominantes du champ journalistique et produire une information factuelle, neutre, de la question climatique, comme on va l'illustrer après, dans un instant. Peut-être juste pour illustrer comment les journalistes disent ça, on pourrait, avant de passer un petit extrait musical en lien avec ce qu'on raconte là, lire rapidement un passage d'un journaliste en charge de l'environnement à TF1 qui me raconte la chose suivante. Il me dit, il est assez content de me dire ça, il me dit, on ne considère plus l'écologie comme un courant de pensée plus ou moins farfelu, animé par des gens sympathiques mais un peu intégristes verts. Je crois que l'environnement a beaucoup souffert du fait qu'il a été détourné par des courants politiques, par des arrière-pensées politiques. Donc au début des années 2000, voilà en fait comment l'écologie souhaite, ou l'environnement souhaite être valorisé dans les médias comme quelque chose qui n'est plus politique. Bon. Et on va voir en fait que sous couvert de se présenter comme quelque chose qui n'est plus militant et plus politique, c'est venu servir des logiques pourtant bien politiques de conservation de l'ordre social.
Peut-être avant de passer à la deuxième partie, vu qu'on est sur les profils professionnels, je voulais te poser la question. On a vu qu'au niveau des ministères de l'environnement, l'apparition de la question environnementale a transformé les profils et a évacué en fait, ou plutôt a mis en place des hommes au sein des ministères les plus valorisés, les plus valorisables. Et je voulais savoir, est-ce qu'on pouvait adopter une perspective de genre au niveau du champ médiatique aussi ?
Alors c'est vrai que peut-être ça permet de reclarifier ce point sur lequel on s'était pas vraiment arrêté lors de la dernière chronique, c'est que c'est pas très amusant, mais bon, en tout cas, ce que j'ai observé, c'est que quand l'environnement devient une thématique un peu plus valorisée, un peu plus reconnue dans le champ politique, tout d'un coup, on voit arriver des hommes à la tête du ministère de l'Environnement. Juppé, Bourleau, par exemple. Le ministère de l'Environnement, par rapport aux autres ministères, avait plus souvent à sa tête des femmes ministres. Ce qui était, quand on tournait malheureusement comment fonctionne le jeu politique, ce qui était un indice de sa domination. Hein, puisque dans le champ politique, comme dans d'autres champs professionnels, quand c'est dominé, on attribue ça aux femmes. Voilà. Et du coup, il y avait cette espèce de caricature un peu genrée de traitement politique de l'environnement. Ça se passe différemment dans le champ journalistique. Il n'y a pas à l'inverse. En fait, ça se passe un peu à l'inverse. C'est-à-dire que les journalistes qui avaient un rapport assez politique à l'environnement, c'était plutôt des hommes, ce qui renvoie plutôt à la division genrée de l'intérêt à la politique dans la société. Hein, même si ça peut-être évolue depuis une dizaine d'années, dans les années 80-90, c'était très comme ça. Et aujourd'hui, c'est davantage des femmes qui s'occupent d'environnement, parce que ça reste, même si c'est devenu une spécialité plus importante, ça reste une spécialité malgré tout secondaire au regard de la politique, de l'économie ou d'autres choses.
Ok, bah merci. On met une petite chanson avant de passer à la deuxième partie. Enfin non, c'est pas juste une petite chanson, je crois. Alors on essaye. Ok, ça marche pas. Alors je fais un clap, mais c'est pour l'enregistrement.
but to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Eh bien, salut, on est toujours sur Radio Klaxon et on entame la deuxième... Enfin, on est au milieu de la deuxième chronique autour de l'écologie, écologie politique et dépolitisation de l'écologie. Oh là là. Bon, et là, c'est autour de l'acteur, des acteurs comme les journalistes dans cette dépolitisation de la question environnementale.
Oui, alors dans cette deuxième partie, l'idée c'est d'aborder la question du traitement de l'information. On a vu l'histoire, les transformations que les médias ont subies et qui peuvent expliquer qui est où maintenant et en quoi ça engendre un traitement dépolitisé de la question climatique. Et maintenant, ça serait l'idée d'aborder les conséquences sur la formation. Et en quoi les médias participent de cette dépolitisation et véhiculent la même vision du monde que l'État par rapport à l'éco-citoyenneté et par rapport aux politiques des petits pas et à la responsabilisation des individus.
Oui, alors c'est vrai qu'on emploie beaucoup ce mot dépolitisation. C'est un peu dépolitisation, il y a plusieurs choses, hein, mais il y a notamment... deux choses importantes, c'est faire des enjeux, des problèmes individuels et non pas des problèmes collectifs qui seraient le résultat et qui impliqueraient des choix politiques et structurels qui remettraient frontalement en cause l'ordre établi à ses racines, de façon radicale à ses racines. Et la deuxième chose importante de la dépolitisation, c'est de faire du coup quelque chose qui est consensuel, qui ne fait pas de vagues, qui, du coup, ne faisant pas de vagues, peut faire du bruit, parce que ce qui ne fait pas de vagues fait plus de bruit. C'est plus, voilà, on peut plus facilement se faire le relais de quelque chose qui est peu clivant, qui est consensuel, qui est perçu comme fédérateur. Et effectivement, les médias, les journalistes vont jouer un rôle très important pour faire du climat un problème qui transcenderait, soi-disant, les idéologies politiques. Hein. Les journalistes vont jouer un rôle très important pour permettre à ce discours qu'on a beaucoup vu revenir, l'écologie, c'est ni de droite, c'est ni de gauche. Hein. L'écologie, c'est une affaire de citoyens. Voilà, l'approche citoyeniste de l'écologie, les journalistes ont joué un rôle très important. Alors comment ? Comment ? Moi, j'ai regardé, et je propose de l'illustrer à partir des enjeux climatiques. Bon. Ce que j'observe très concrètement, c'est que plus les journalistes, les médias vont parler du climat, moins ils vont parler des causes des dérèglements climatiques. Et plus ils vont parler des conséquences. Quand ils parlent des causes des dérèglements climatiques, c'est pointer du doigt le rôle de l'industrie, le rôle du politique. C'est avoir une approche un peu plus politisée, un peu plus politique, un peu plus clivante. En montrant le problème des modes de transport, par exemple l'impérialisme automobile, voilà, l'hégémonie de la voiture, la dépendance à l'automobile, c'est pointer la question de l'énergie, de nos choix énergétiques. Voilà. Donc c'est quand même arriver à des choses qui posent des questions de société, des questions politiques. Sauf que comme plus ils parlent du climat, moins ils vont parler des causes et plus ils vont parler des conséquences, ils vont du coup passer sous silence ces questions, ces causes structurelles des dérèglements climatiques. Et donc, ils vont se focaliser sur les conséquences. Alors, ça veut dire quoi, se focaliser sur les conséquences ? Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de reportages ou d'articles qui vont parler des conséquences principalement naturelles ou météorologiques des dérèglements climatiques. On va parler des tempêtes, on va parler des inondations, des sécheresses, des ouragans, de la migration, des problèmes de migration animale, en particulier des oiseaux, des dérèglements des saisons au niveau des cultures, etc. D'ailleurs, on met l'accent sur les conséquences naturelles météorologiques, qui permet aussi de passer sous silence là, les conséquences sociales, hein, le problème, par exemple, en termes sanitaires, ou les problèmes géopolitiques de migration de population. Les conséquences sociales, on n'en parle pas. Donc on parle des conséquences naturelles. On en fait un problème naturel sur lequel, finalement, le politique aurait peu de prise, hein, ou qui concernerait peu le politique. Donc on met l'accent sur les conséquences naturelles et météorologiques, ce qui permet en plus de raconter des belles histoires. Hein, l'histoire du responsable du jardin des plantes de je ne sais pas quelle ville qui va raconter, venir témoigner qu'effectivement il voit un décalage dans les saisons florales, de la flore. Ça va être des histoires émotionnelles avec les catastrophes naturelles. Donc aussi de belles histoires avec du coup de belles images ou des images fortes. Donc il va y avoir une forme d'esthétisation. On va en faire quelque chose d'esthétique, ce traitement du climat, ce qui, correspond parfaitement aux attentes des rédacteurs en chef qui veulent de beaux sujets, de belles images pour plaire aux audiences. Parce que j'ai surtout travaillé, moi, sur les journaux télévisés. Mais on retrouve ça aussi un peu dans les news magazines, dans l'Express, le Nouvel Obs, le Point, qui mettent des photos un peu dites choc, mais qui sont aussi des belles photos censées attirer l'œil, qui ne posent pas de questions politiques, ça froisse personne. Du tout, tout le monde peut se dire intéressé. Donc, de belles histoires, de belles images. Et aussi, ça permet de décliner à l'infini les sujets, puisque des conséquences du changement climatique, il y en a à l'appel. Donc, on peut toujours se démarquer, montrer qu'on fait différent du concurrent, mais en fait, on fait différent, mais en fait, on est bien dans le même registre. Donc, non, c'est pas la même chose, TF1 France 2, mais si, c'est exactement le même registre. Bon. Donc, ça va être essentiellement sur les conséquences. Il va aussi y avoir quelques reportages, un nombre quand même suffisamment important pour le signaler, qui vont tout simplement se faire le relais très direct. On est vraiment dans de la promotion par les journalistes des politiques d'État, puisque des reportages qui vont être piqués, quelles sont les économies d'énergie que les individus doivent faire, quels sont les petits gestes à adopter, comment on doit se servir du crédit d'impôt, du prêt à taux zéro, ou comment on doit faire attention à ces politiques d'étiquetage des équipements électroménagers. Ça, c'est la politique publique, hein, derrière, c'est l'État. Bon, les journalistes font un nombre assez important de reportages là-dessus, ça mérite d'être signalé, mais c'est un peu à part. Ce qui nous intéresse quand même là, c'est comment on traite le climat d'une façon factuelle à travers les conséquences naturelles. Alors peut-être pour illustrer ça, et pour montrer comment les journalistes conçoivent que c'est important pour eux, un extrait d'entretien où un journaliste, assez court, un journaliste me dit, pour m'expliquer en fait pourquoi il parle comme ça du climat, il me dit « Donc c'est ce genre de phénomène extrême qui sensibilise les gens. » Parce que ça les touche directement dans leur chair ou dans celle de leurs proches. Et ils voient en termes pratiques illustrés ce que ça pourrait donner si on continue comme ça. Donc on voit comment les journalistes reprennent à leur compte ce qu'on évoquait vendredi, cette doxa sensibilisatrice, ce souci, cette préoccupation très forte et indiscutée et dominante de sensibiliser, de rendre sensible, faire en sorte que ça touche les gens dans leur chair, leur montrer comment ils sont des victimes potentielles du climat pour les inciter à agir au quotidien chez eux pour le climat.
Et tout ça se fait sous couvert d'une neutralité journalistique, d'une objectivité qui est revendiquée, qui est crue en fait par tout le monde.
Oui. Il y a chez les journalistes, dans les médias, cette croyance très forte dans la possibilité d'une objectivité. Le journaliste doit être objectif. Bon. Autant le dire tout de suite, il n'y a pas d'objectivité possible en journalisme. D'ailleurs, pas plus que dans les sciences sociales, je crois. En tout cas, on peut essayer d'être neutre, on peut tendre à ça, mais on ne l'est jamais tout à fait. Et en fait, être objectif ou être neutre, en tout cas en sciences sociales, c'est justement reconnaître que l'on ne l'est pas et réfléchir sur le fait qu'on ne l'est pas pour voir comment ça modifie ce qu'on va dire ou comment on va analyser les choses.
Et expliquer d'où on parle.
Voilà, tout simplement. Sauf que là, effectivement, les journalistes, en faisant des reportages factuels sur voilà, des tempêtes, des inondations, sur des conséquences naturelles ou météorologiques du climat, en faisant ça, ils ont l'impression d'être neutres parce qu'ils disent « on parle des faits et que des faits, on est factuel ». Du coup, sauf qu'en faisant ça, finalement, ils prennent pour acquis les choses acquises et du coup, ils les cautionnent. Je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire qu'en ne remettant pas en cause le cours des choses, le cours politique des choses, en ne remettant pas en cause l'ordre social, finalement, ils le cautionnent. Parce que, ils détournent l'attention des choses politiques pour seulement nous focaliser sur les conséquences afin de nous sensibiliser. Et en faisant ça, effectivement, ils ont l'impression d'être objectifs, sauf que, en fait, ils jouent le rôle de courroie médiatique, de courroie symbolique d'une idéologie, hein, celle qui met l'accent sur les comportements individuels. Voilà. Donc, sous couvert d'être neutre et objectif, en fait, ils laissent couler l'eau du robinet, d'une certaine façon, l'eau du robinet néolibéral. Alors, peut-être, pour aussi continuer à illustrer à quel point cette volonté de sensibiliser le plus grand nombre est importante. Les journalistes vont utiliser toute une rhétorique, un langage, des images qui visent à rendre sensible. Par exemple, ils vont jouer sur les couleurs, hein, le chaud. Le rouge et le bleu, ou le rouge, le jaune, l'orange et le bleu. Le bleu, c'est ce qui est froid ou ce qui est humide. Le rouge ou l'orange ou le jaune, ça va être ce qui est sec et ce qui est chaud. Donc, on joue sur les sens primaires, hein, de l'humide et du sec, du chaud et du froid, censés être les sens les plus partagés. Bon. Donc, il y a toute cette iconographie avec les soleils, avec la sécheresse, ou à l'inverse, l'humide, l'inondation, etc., qui tourne en boucle, quoi, qui revient tout le temps. Avec ça, on a par exemple l'idée du thermomètre, qui revient aussi tout le temps. Bon. Et derrière, du coup, il y a cette banalisation d'une expression, qui est l'expression réchauffement climatique. Sauf que, parler de réchauffement climatique, c'est réduire la question du climat à une question de température. Or, en fait, les dérèglements climatiques, ils prennent des formes très, très variables et ils concernent à la fois les températures, mais ils concernent aussi la pluviométrie, ils concernent aussi le régime des vents. Et ça dépend des temporalités et des espaces géographiques, des régions. Donc, il y a des climats, donc des dérèglements climatiques. C'est ça qui est scientifiquement consistant. Sauf qu'on va réduire cette question-là à une question de réchauffement. Parce que ça résonne avec toute cette iconographie, avec ce récit de la température. Ça simplifie les choses. Hein. Voilà, l'idée de ça va se réchauffer. Et donc, il y a cette. Et si c'est aussi présent, alors que c'est assez faux, c'est parce que y a, voilà, ça illustre à quel point il y a cette volonté de. Rendre sensible pour faire prendre conscience, pour que pour individualiser le problème, c'est une façon forte de le dépolitiser, de passer sous silence les aspects idéologiques, le fait que derrière, il y a des choix de société, il y a des intérêts sociaux, politiques qui sont privilégiés, à commencer par la préservation du style de vie des classes dominantes qui pourtant ne sont plus soutenables.
Dans ton livre, tu parles justement de cette croyance professionnelle en l'objectivité et tu dis « En ne traitant pas les causes de ces faits, une telle médiatisation contribue à les épargner, à dissoudre les responsabilités et à prendre parti pour les interprétations officielles. » Donc on assiste aux mêmes logiques d'invisibilisation des inégalités quand on se pose la question « Qui paye quoi ? Qui subit les conséquences des dérèglements climatiques ?» et la facilité d'une reprise du langage du pouvoir ou des discours officiels par les journalistes pour se valoriser.
Oui, et ce qu'on raconte là, alors évidemment, ce sont des logiques dominantes, ce sont des tendances. On trouvera toujours des exceptions pour confirmer cette règle-là. Il faut avoir en tête que voilà, c'est une approche structurale qui voit dans l'ensemble. Si on regarde au cas par cas, on pourra par moment trouver des articles ou des reportages qui dérogent un peu à cette règle, à cette tendance. Et du coup, parler de tendance et de logique dominante générale, donc parler en termes de régularité, hein, ce qui revient le plus souvent, ce qui ne veut pas dire que ça revient tout le temps, ça permet, tu le disais, de mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas forcément intentionnel, ce n'est même pas du tout intentionnel de la part des journalistes. En faisant ça, ils ont l'impression de bien faire leur boulot. Ils ont l'impression même de servir la cause climatique. Ils en sont même persuadés. Ils ont l'impression que c'est leur rôle civique, moral de journaliste que de participer à cet effort national de sensibilisation. Oh là là, tout le monde doit être au courant du danger qui nous attend. Donc, et du coup, voilà, ils font ces reportages là un peu sur les conséquences, quoi. Et puis parce que surtout, enfin. Voilà, donc parce que c'est aussi ce qui est attendu de par leur rédacteur en chef, de par la hiérarchie, hein, qui est très heureuse de voir ces reportages et de voir qu'on parle du climat sous le registre du fait divers. Là, on pourrait en parler sous le registre de l'actualité politique. Non, le climat, c'est une affaire de fait divers naturel. On va d'ailleurs, les reportages d'ailleurs arrivent plutôt en seconde partie de journaux télévisés. Voilà. Et quand c'est une affaire politique, c'est une affaire diplomatique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, ce n'est plus du tout une affaire idéologique. C'est quelque chose qui est tout à fait... Voilà, on est dans le relais médiatique du capitalisme vert, de la croissance verte. Il y a cette idéologie très, très forte. Et si les journalistes participent à tout ça... Alors, les journalistes qui sont arrivés sur cette question-là, à la fin des années 90, début des années 2000, pas les journalistes historiques de l'environnement. Hein. Il y a cet aspect générationnel qui, je crois, est vraiment important à garder en tête. Il ne faut pas mettre tous les journalistes dans le même sac. Bon. Et ce qui, d'ailleurs, nous amène aussi à évoquer le fait que les journalistes historiques de l'environnement, finalement, pour eux, cette transformation-là, cette façon un peu lisse, aseptisée de parler de l'environnement, c'est plus supportable pour eux. D'ailleurs, certains quittent leurs journaux. Hein, il y a le cas d'Hervé Kempf qui quitte Le Monde il y a 2 ans, je crois, maintenant. Ruth Tedjassi qui arrête Terre à Terre au début, voilà, qui a fini cette émission-là. Donc ces journalistes-là, ils quittent cet univers médiatique qui n'est plus supportable pour eux, ce qui nous amène à parler, peut-être on pourra y revenir aussi dans un instant, sur le rôle en fait, des médias dits alternatifs, mais qui sont en fait des médias qui font leur job et qui montrent les enjeux politiques et qui créent du débat, hein, qui créent du débat pluraliste et conflictuel. Je me suis un peu égaré, mais je reviens du coup pour finir là-dessus, c'est que c'est intéressant de voir que tous les médias dominants au sens où ce sont eux qui ont les plus grandes audiences et le plus de fric, ben ces médias-là, en fait, ils traitent du climat de la même façon. Il n'y a quasiment pas de différence entre le Figaro et Libé. Elle est infime, la différence, ou elle est rare. Donc, et du coup, la différence, pour la trouver, il faut aller plutôt vers des médias comme Reporter, Basta, Silence, L'Âge de Fer. Voilà. C'est plutôt dans ces univers médiatiques non conventionnels qu'on va s'apercevoir qu'en fait, on peut parler de l'environnement de façon un peu plus politique, sans d'ailleurs être toujours révolutionnaire. Après, on voit que c'est aussi, il y a des différences de sensibilité. Mais ça, du coup, voilà, ça nous permet d'aller voir un peu comment on parle d'environnement dans ces médias-là. Ça permet de rendre moins insupportable, en fait, la façon dont les médias dominants en parlent. Et pour finir là-dessus, si les journalistes, du coup, de ces médias dominants sont très, adhèrent parfaitement sans trop se poser de questions, assez logiques de sensibilisation, de mobilisation par le spectacle, par le fait divers, par l'événement, c'est aussi parce que ça correspond à leur profil social, à leur disposition sociale, à la façon dont ils se sont construits socialement. Ça correspond au fait qu'ils ont fait des études plutôt longues et plutôt poussées. Ça correspond aussi à leur goût culturel. Enfin, tout ça, c'est un ensemble derrière.
Peut-être de manière plus générale, on a posé la question des dépendances économiques du champ médiatique par le biais des contraintes à la production, à la rentabilité, les contraintes qui pèsent par rapport aux attentes du public, présupposées en tout cas. Il y a la question de la dépendance politique qui mène les médias à privilégier les cadrages conformistes. Et la question, ça serait, est-ce qu'en devenant une préoccupation large, la question climatique devient rentable, est-ce que c'est pas là sa perte ?
Sacrée question, question fondamentale.
Question de dissertation.
Il y a des coûts idéologiques à l'audience élargie. C'est-à-dire chercher une audience élargie, vouloir plaire à tout le monde, comme dirait l'autre. Vouloir plaire au plus grand nombre, bah, ça a des coûts idéologiques. Et on peut du coup s'interroger sur le fait que sous couvert de démocratie apparente, il faut intégrer tout le monde. En fait, on impose une vision lisse, encore une fois, neutre, soi-disant neutre, de ces questions-là. Et en imposant une vision consensuelle fédératrice, soi-disant neutre, en fait, on sert les dominants. C'est-à-dire que voilà, quand quelqu'un vous dit « moi, je suis neutre ou objectif », dites-vous qu'en fait, pas forcément sans qu'il en soit conscient ou pas forcément sans qu'il s'en rende compte, en fait, il prend le parti de celui qui domine. C'est une logique, c'est une vérité. Quoi. Pour moi, c'est une vérité sociale et politique et historique aussi. Quoi.
Et on s'est posé la question par rapport à l'État, sur qu'est-ce qu'on pouvait faire contre l'État et contre les discours qu'il nous impose. Est-ce qu'on peut se poser la même question par rapport aux médias, ce qui peut-être nous mène vers les médias alternatifs ou sur l'automédia. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas subir ces informations qui sont qu'une reprise des discours dominants ?
Déjà, prendre le temps de réfléchir, parce que ça ne va pas de soi, c'est compliqué, au fait que... à rentrer dans une logique d'audience, de crédibilité, à rentrer dans une logique d'audience. On rentre dans une logique de spectacle, on rentre dans une logique où on diminue le degré de conflictualité, et du coup on rentre dans une logique qui n'est pas politique, qui dépolitise, et qui du coup n'est pas neutre, en ce sens où elle va... Voilà. Donc ça, je crois déjà c'est important à ça. Deuxième point, important de travailler, à réfléchir là-dessus, parce que ça ne va pas forcément de soi, ça prend un peu de temps pour construire un discours argumentaire là-dessus. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est comprendre pourquoi la logique du plus grand nombre, de l'événement, du spectacle, est une logique qui sert le pouvoir en place. Deuxième chose qu'il faut réfléchir, je crois, et ce qui permet du coup un peu de peut-être se défocaliser des médias qui sont peut-être pas voilà, qui doivent peut-être pas mobiliser toutes nos énergies révolutionnaires, c'est de se dire que les médias, contrairement à ce qu'on pense, ne nous manipulent pas tant que ça, dans le sens où nous ne sommes pas dupes, et y compris des gens qui n'ont pas fait d'études longues, qui ne sont pas dans le savoir lettré, etc. Bah, ces gens-là, ils savent très bien opposer des contre-discours aux discours médiatiques. Donc, les médias n'ont pas d'effet puissant sur ce que l'on pense et la façon dont on pense, contrairement à ce sens commun très répandu, à la fois d'ailleurs chez les élites néolibérales et à la fois dans les milieux militants de la critique des médias, où il y a souvent cette idée des médias qui nous manipuleraient, etc. En fait, non. Il faut, les médias, ils portent un discours, et ce discours, il va parler à des gens qui sont disposés à le recevoir. Et c'est sur ces gens-là qu'il aura... ce qui nous apparaîtra comme un effet. Mais quand on n'est pas d'accord avec ce discours, ou ce discours il s'appuie sur des valeurs ou des critères moraux qui sont celui d'autres catégories sociales, bah nous, les individus vont mettre à distance, ils vont résister à ce message-là. Donc du coup, quand on se dit finalement, les discours de TF1, France 2, le Monde, Libé, tout ça sur l'environnement, en fait, ça parle surtout aux classes moyennes supérieures. Mais quand on prend le temps de discuter avec les membres des classes populaires, ce que j'ai fait, de la façon, enfin, du climat, de l'environnement, de la façon dont les médias en parlent, ces gens-là, alors déjà, les membres des classes populaires, ils sont très intéressés par la question environnementale, ils sont aussi inquiets, ils en connaissent un paquet, hein, contrairement à ce qu'on peut penser vu des stratosphères intellectuelles parisiennes. Simplement, ce qu'ils disent, ces membres des classes populaires, ils le disent avec beaucoup de tact d'ailleurs, ils disent... Mais en fait, ça, c'est de l'écologie de riches. C'est de l'écologie de bonne conscience, l'écologie dominante. Avec des discours du style « moi, j'ai pas les moyens de me la péter écolo ». Voilà. Donc eux, les membres des classes populaires, ils remettent le doigt sur les coûts matériels de l'écologie. C'est-à-dire qu'être éco-citoyen, ça a un coût matériel. Là où on nous dit, c'est le post-matérialisme, etc., que dalle. C'est très matériel, en fait, l'écologie dominante. Et du coup, il faut prendre le temps de discuter avec des membres des classes populaires, que ce soit dans des zones rurales reculées, que ce soit dans les quartiers populaires, des gens qui sont démunis, d'une certaine façon, en ressources culturelles ou en ressources économiques, mais qui ne sont pas du tout démunis d'arguments à opposer pour critiquer par le bas, d'une certaine façon, mais de façon très, très efficace, ces discours médiatiques dominants sur le climat. Du coup, quand on se dit ça, on se dit, qui continue leur petit jeu de dépolitisation de l'écologie, finalement, ça n'empêche pas, ça n'a pas d'effet sur tout le monde, quoi. Ça a d'effet que sur ceux qui, de toute façon, auraient du mal à entendre autre chose. Et du coup, troisième point, donc, réfléchir à l'orientation politique des logiques de grande audience. Se dire que les médias n'ont pas les effets tout-puissants que l'on leur impute sur ce que les gens pensent. Et troisième chose, effectivement, je pense que ce que l'on peut faire, c'est... soutenir, je pense, quand même, les médias non conventionnels, les médias politiques, j'appellerais ça des médias politiques plutôt que des médias alternatifs, les soutenir, je pense que c'est néanmoins important de travailler avec eux, peut-être. Après, moi, je suis pas à réfléchir.
Merci pour toutes ces explications. Et peut-être pour conclure et synthétiser le propos, l'idée d'aujourd'hui, c'était d'aborder la question des médias et de voir en quoi les objectifs d'audience ont engendré un traitement sur les conséquences plutôt que les causes des problématiques climatiques, et se sont focalisés sur les initiatives exemplaires pour individualiser et expliquer que en fait c'est par les petits gestes au quotidien qu'on va changer les choses, ce qui fait que les médias en fait on vienne à se faire les relais du discours de l'État et de ses agents, les outils pour nous prémunir de ces discours étant, suivant ce que tu dis, une certaine éloge du conflit. La question des médias politiques ou de l'automédia et la relativisation du pouvoir des médias sur nos vies. Est-ce que tu veux compléter ?
Juste un point, parce que du coup, en t'écoutant, je repensais à ce que je disais pour essayer de le dire autrement ou de le préciser. Vouloir jouer le jeu médiatique dans des luttes, dans des conflits, il faut se demander pourquoi on veut jouer le jeu médiatique. Bien souvent, malgré nous, c'est pour chercher une légitimité au-delà de nos cercles, sortir de l'entre-soi. Et c'est intéressant de vouloir sortir de l'entre-soi, mais je pense que c'est pas par le jeu médiatique qu'on va le faire, c'est par un travail de terrain, de longue haleine. C'est pas parce qu'on va faire une tribune ou qu'on va faire un petit événement de, voilà, qu'on va toucher au-delà de nos cercles convaincus. Non, à la limite, c'est pas du tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut être, pourquoi on veut lutter dans les médias? Je pense que c'est cette question-là. Qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? Si on cherche une légitimité symbolique, institutionnelle ou la légitimité du nombre, on rentre dans les jeux du pouvoir dominant et on peut difficilement faire autre chose que, dans ce cas-là, renforcer ses propres logiques. Donc du coup, je pense qu'il faut essayer d'inventer, déjà de se dire, c'est peut-être pas dans, enfin, les médias, en fait, ils doivent nous servir à, une fois peut-être, affirmer notre désaccord, voilà, mais pas chercher à le faire trop, plus que ça. Ou, voilà. Donc si c'est pour affirmer un désaccord, quitte à se mettre plein de monde à dos, peut-être dans un premier temps, mais après, les médias, ils peuvent aussi servir plutôt au niveau local, plutôt aussi pour communiquer entre les différentes composantes de la lutte. Mais voilà, en fait, ça pose la question, finalement, en t'écoutant, de les stratégies médiatiques dans une lutte, quoi. Et en fait, est-ce qu'il faut avoir des stratégies médiatiques dans une lutte? C'est loin d'être certain.
Est-ce qu'il faut monter dans l'avion pour le détourner?
Ouais, c'est ça.
Avec les dangers que ça peut présenter.
Voilà. À réfléchir.
Merci.
C'était une spéciale dédicace aux problématiques que rencontre le mouvement contre la lutte contre l'aéroport. Oh là là, bon, je m'en mêle, mais en gros, j'avais l'impression d'entendre beaucoup de choses résonner avec des questionnements qu'on peut avoir ces derniers temps sur la ZAD et dans cette lutte contre l'aéroport et son monde, et comment là, avec le pouvoir politique que prend cette lutte. Et les jeux médiatiques qui peuvent se jouer aussi là. Bon, bref, voilà. Ah, ça fait plaisir à entendre. Eh ben, merci beaucoup de cette émission. Et puis, on se retrouve très vite, du coup. À bientôt. Salut.